France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne sont toujours complètement à l'est, mais ils ont quitté l'Alsace. Nous voici à présent en Haute-Saône, département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes à Vesoul et dans ses environs donc. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un petit quart d'heure s'est installé à Luz, un village de 800 habitants dans l'est de la Haute-Saône, tout près de Belfort. Le plan ne change pas, les carnets mettent en lumière des initiatives, des solutions, des bonnes idées. Au programme aujourd'hui, un festival très important dans ce territoire rural, le festival Les Pluralies. Et ensuite, je passerai un coup de fil à Champagnet, pas loin de Luz, justement, pour donner la parole à une femme qui a inventé son métier. Elle est réveilleuse de lieux. Son boulot consiste, entre autres, à raconter des histoires qui sont placées sur des panneaux en bordure de chemin, mais aussi à organiser l'école dehors pour les élèves de Haute-Saône. Car même quand on vit à la campagne, il n'est pas toujours une évidence de sortir et d'explorer la nature. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Voici un festival qui propose du théâtre, de la danse, de l'humour, des concerts et qui a donc choisi un nom pour illustrer cette pluralité des disciplines. Les Pluralies, festival prévu du 3 au 6 juillet à Luxeuil-les-Bains, une commune de 7000 habitants entre Vesoul et Épinal. Bonjour Jackie Castan.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes le directeur et créateur de ce rendez-vous. Vous êtes par ailleurs directeur de théâtre Seine-Vosges à Épinal. Alors les Pluralies, ce sont des spectacles dans tous les domaines, je le disais. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'ampleur de cet événement au regard du territoire où il est installé.
On s'est clairement dit que, bien évidemment, dans un département rural comme le département de la Haute-Saône, il fallait bien évidemment s'appuyer sur ses points forts. À Luxeuil-les-Bains, c'est une ville historique. Depuis 590, le moine Colomban y a fondé son abbaye. Et bien évidemment, bien après, à la Renaissance, il y a eu une abbaye extraordinaire avec un cloître. Il y a un cloître qui est au cœur de la ville de Luxeuil et qu'on s'est dit, on peut y créer un festival là. Et si on y crée un festival, probablement essayons de tendre vers le meilleur, vers les meilleures propositions artistiques. Et c'est ce qui fait que depuis 2002, on essaie d'exister dans cet est de la France qui n'a pas tant de festivals que ça en période estivale.
Oui, c'est particulièrement précieux dans un département comme la Haute-Saône.
Oui, parce que nous, on tient beaucoup, c'est quelque chose qui est très important dans notre... Bien évidemment, il y a la diffusion des artistes, bien évidemment, il y a la mise en valeur du patrimoine architectural, mais presque de façon plus importante, il y a le lien social. Il y a la capacité de retrouver l'humanité qui est en chacun de nous. Et nous, on aime beaucoup, beaucoup l'idée, avec des propositions, par exemple, de spectacles gratuits, que tout le monde puisse venir à un festival, y compris tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller dans le sud de la France ou qui ont la chance d'y aller, mais qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de pouvoir se permettre d'aller dans des festivals. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, la proximité, l'humanité, la rencontre, le lien social.
C'est vrai qu'il y a une culture du festival dans le sud de la France. Est-ce que vous pourriez dire qu'à Luxeuil-les-Bains, on dirait le sud ?
En tout cas, c'est ce que Sanseverino, lorsqu'il était passé au Pluralie et qu'il avait découvert un autre cloître dont les révolutionnaires de 1792 ont abattu le quatrième mur pour en donner, bien évidemment, deux siècles après, un formidable espace scénique. Sanseverino avait dit, mais c'est magique, on se croirait dans le sud. Donc voilà, si lui le dit, croyons-le.
Alors, vous nous parlez de la programmation des Pluralies pour cet été 2024 ?
Oui, en ouverture, on aura les Frangines le 3 juillet à 21h, toujours dans ce cloître-là. On a surtout aussi, je dirais aussi surtout par rapport à ce que j'ai dit précédemment, des spectacles gratuits chaque soir à 19h dans l'auberge du festival qui est installé dans le jardin de l'abbaye. Vraiment, l'abbaye, c'est le cœur de notre festival et que donc, voilà, le jardin de l'abbaye est un endroit absolument magique et merveilleux. Et chaque soir, on propose des spectacles de musique complètement différents et les spectacles sont bien évidemment gratuit. Et le jeudi 4 juillet à 21h30 dans le cloître, on aura entre guillemets notre gros spectacle de cette édition. Ça sera Claudio Capeo qui sera avec nous, mais avec plein d'autres choses. Je pense par exemple à Ma Part d'Ombre qui sera avec Sofiane Chalal, qui est le vice-champion du monde de hip-hop le samedi 6 juillet, ou Pierre Auken qui fera un magnifique spectacle d'humour le 6 juillet. Comme vous l'avez dit, les pluralistes et la pluridisciplinarité.
À quel point c'est important d'après pensez-vous de faire vivre la culture en milieu rural ?
C'est absolument important. Au début, quand j'étais tout jeune enfant à Luxeuil, il y avait un festival qui était dans le parc thermal, c'est-à-dire un peu excentré. Moi, je pense que la culture, elle doit être au cœur de la vie de chacun. C'est-à-dire cet enrichissement que les artistes nous permettent bien évidemment d'avoir par rapport à notre propre monde, mais surtout le lien social qui est porteur de plein de valeurs extrêmement importantes. On est plutôt dans un monde qui est refermé sur soi, et la culture, pour toutes ces valeurs-là, devient complètement essentielle, et c'est en tout cas ce qu'on essaie, nous, de défendre au pluralisme.
Et puis, il faut souligner aussi quelque chose de très important, c'est la mobilisation des bénévoles autour de ce festival.
Ah oui, vous avez raison. D'ailleurs, on en recherche, mais on leur propose une semaine d'hébergement dans l'abbaye, de nourriture. Et voilà, on aime que les bénévoles puissent être absolument partout, hein, depuis le montage technique, l'accueil des artistes. Moi-même, j'en prends tous les matins pour réaliser des tartes, hein, des tartes qui sont vendues le soir à l'auberge, parce qu'on aime cette proximité-là et on aime aussi que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, on a chaque année une quarantaine de bénévoles qui sont principalement des jeunes. Et quand on voit ces jeunes-là pendant une semaine, on est absolument complètement réconcilié avec la jeunesse.
Et puis, je le disais, Luxeuil-les-Bains, c'est 7000 habitants. Vous faites venir combien de personnes sur ce festival, sur 4 jours ?
Ben 7000 personnes, 7000 spectateurs. Ouais. Alors bien évidemment, il y en a qui viennent un petit peu de... On rayonne à peu près une centaine de kilomètres autour de Luxeuil, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que par rapport, vous avez bien fait de rappeler ça, par rapport à la population de la ville, on est plutôt un festival important, oui.
Les pluralis, c'est donc à Luxeuil-les-Bains du 3 au 6 juillet, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre. Merci beaucoup, Jackie Castan.
Merci beaucoup, Dorothée.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Un coup d'œil à vos messages. Vous nous avez écrit en nombre pour signaler des initiatives en Haute-Saône. Anne-Claude, dans son courriel, met la lumière sur un autre festival baptisé Musique et Mémoire, festival de musique baroque, qui a fêté ses 30 ans l'an dernier. Petit festival qui a commencé de façon très artisanale, écrit cette auditrice. Il a grandi au fil des années en recevant des artistes prestigieux. Les musiciens et musiciennes sont accueillis en résidence. Fabrice Creux, le fondateur de ce festival, s'est entouré d'une équipe de bénévoles fidèles, là aussi. Les concerts ont lieu dans des villes et petits villages de Haute-Saône, comme Héricourt, Servance, Fauconnet et la Mer, et j'en passe. Fauconnet et la Mer, commune qui n'est pas du tout au bord de la mer, hein, mais dans les contreforts du massif des Vosges. Festival Musique et Mémoire, c'est donc en Haute-Saône, du 18 juillet au 4 août. Un message de Claire, autre auditrice. Je voulais vous présenter un lieu culturel et historique, dynamique et en plein renouveau en Haute-Saône. Il s'agit du château de Bouget, toute petite commune de 94 habitants près de Jussey. Ce château, au riche passé historique, est un lieu d'expression culturelle. Il accueille des expositions artistiques ou artisanales, des commémorations historiques et des concerts. Il a bénéficié de l'aide du Loto du patrimoine. Patrimoine et ses écuries sont en pleine restauration grâce à cette aide. C'est un lieu très attachant, écrit Claire. Et elle nous remercie au passage pour ces émissions qui permettent de découvrir les perles qui se trouvent sur nos territoires. Nous avons reçu aussi plusieurs messages pour chanter les louanges de Place du Local. Julien, dans son message, écrit que c'est un service de circuit court avec de vraies convictions qui propose un grand choix de producteurs locaux. Amélie, autre auditrice, également cliente de Place du Local, elle précise que les produits sont super et les tarifs plus que corrects. Ce sont de vrais acteurs de l'économie locale qui méritent d'être mis en lumière. On commande en ligne et on peut récupérer ses produits en boutique, à Vesoul ou livrés à domicile. Place du Local, je le précise, est aussi implantée à Belfort et Montbéliard. Un marché local avec livraison à domicile. Donc, vous trouverez tous les liens qui vont bien sur le site des carnets, hein, pour la musique baroque, pour le château et pour la place du local.fr. Je vous rappelle que les carnets de campagne suivent à la trace le jeu des 1000 euros. Alors nous sommes en Haute-Saône cette semaine. Ensuite, on s'intéressera à l'Aisne dans les Hauts-de-France, puis à l'Eure et au Calvados en Normandie, et encore ensuite au Gers et aux Hautes-Pyrénées en Occitanie. Vos messages sont les bienvenus sur le site de l'émission pour signaler des gens géniaux et ou des initiatives réjouissantes dans ces départements.
France Inter. Carnet de campagne.
Une réveilleuse de lieux est l'invitée des carnets de campagne. C'est ainsi qu'elle se présente. Il faut croire qu'elle a inventé elle-même sa fiche de poste. Bonjour Sylvie Riette.
Bonjour.
Vous êtes à Champagney, à l'est de la Haute-Saône, pas très loin de Belfort. Vous avez créé Balade d'hier et d'aujourd'hui. C'est un bureau d'études de valorisation du patrimoine naturel. Vous vous occupez notamment d'aménager des sentiers de randonnée grâce à des panneaux qui racontent, par exemple, l'histoire d'un lieu. Vous travaillez aussi avec les scolaires comme référente école dehors. Vous animez des balades nature. Quel est le point commun, finalement, entre toutes vos activités diverses et variées ?
L'idée, c'est de valoriser justement tous ces espaces naturels et puis ces sites historiques et patrimoniaux en y attirant des visiteurs, des familles, des scolaires pour leur partager des apprentissages mais aussi des découvertes et puis surtout leur générer des souvenirs et des émotions.
Voilà. Et qu'est-ce que vous mettez derrière cet intitulé alors, réveilleuse de lieux ?
Alors justement, réveilleuse de lieux, je pense que chaque lieu a une histoire à raconter, a des moments magiques à faire jaillir. Et donc avec ces balades, ces panneaux, justement, je cherche à réveiller ces petites histoires, ces petites anecdotes qui traînent derrière une feuille, derrière un lavoir, pour que tout le monde puisse le découvrir et puis le lire, l'interpréter.
C'est une reconversion professionnelle pour vous, une carrière dans l'industrie aéronautique comme ingénieur. Sacré changement de cap, dites-moi.
Oui, j'étais ingénieur. Alors pas dans l'aéronautique, dans l'industrie navale et dans l'automobile. Mmh. Donc oui, je suis passée des moteurs de bateaux, de moteurs électriques de bateaux. Et puis un jour, j'ai eu envie de prendre l'air et puis j'ai créé Baladière et d'aujourd'hui.
Mmh. C'est vraiment ça, c'est une envie de prendre l'air, d'ouvrir la fenêtre.
Voilà, une envie de prendre l'air, de faire des choses par moi-même et puis d'être en lien avec la nature et puis en lien avec mes valeurs aussi.
Vous pratiquez aussi l'école du dehors, je le disais. Vous accompagnez les enseignants en forêt, en Haute-Saône. Quelles sont les vertus de l'enseignement dans la forêt pour les élèves ?
Alors, l'enseignement dans la forêt, déjà, c'est de leur faire découvrir un espace de nature à proximité de l'école pour des enfants qui souvent, malheureusement, même en pleine campagne comme la Haute-Saône, ne sortent pas. Mais ça permet surtout d'améliorer leur santé, leur concentration, de ressentir les saisons, de gérer les risques. C'est plus facile de gérer les risques en forêt que dans une salle de classe, de vivre des expériences et puis surtout de rendre les enseignements beaucoup plus concrets. Et puis ça développe aussi l'entraide, l'autonomie. Voilà.
Vous avez des exemples à me donner sur cette histoire de gestion des risques ?
Les enfants, ils sont dans une cour de récréation, souvent bétonnée, il n'y a pas d'obstacle. En forêt, il faut faire attention, on peut grimper aux arbres, il faut lever les pieds, il y a des trous, mais on y va en progression et puis on peut apprendre à monter toujours plus haut. Mais... Chose qu'on peut pas faire dans son salon, devant la télévision ou dans une cour de récréation toute vide.
Alors si on a bien compris, vous travaillez avec les offices de tourisme, avec les collectivités, avec les écoles. De quel projet en particulier avez-vous envie de parler parmi tous ceux que vous portez en ce moment, Sylvie ?
Déjà au niveau de l'école dehors, il y a une énorme dynamique au niveau de l'enseignement national en Haute-Saône et puis dans le territoire de Belfort, enfin en Bourgogne-Franche-Comté en général. Donc ça me permet de rencontrer beaucoup d'enseignants qui pratiquent l'école dehors et donc j'anime en collaboration avec des acteurs du territoire des séances d'échange de pratiques, donc une fois à peu près tous les mois. Donc ça, c'est un beau projet. C'est toujours très valorisant de rencontrer ces enseignants qui ont envie d'enseigner différemment.
Et vos compétences d'ingénieur automobile, elles vous servent dans ce nouveau métier ou pas du tout ?
Alors, mes compétences d'ingénieur en génie mécanique et en conception, oui, puisque je fais aussi la conception des mobiliers et des dispositifs interactifs qu'on peut trouver sur les mobiliers. Donc, ça me permet de faire moi-même les plans. Après, j'ai complété avec d'autres compétences comme le graphisme, l'animation, la pédagogie, voilà.
Aucun regret, donc, quant à cette reconversion.
Aucun regret.
Balade d'hier et d'aujourd'hui, c'est le nom de votre petite entreprise. Merci beaucoup Sylvie.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.